vais donc faire une petite introduction, à la fois pour présenter René Gay-Housted, disparu en janvier 2023, donc très récemment, dans son appartement de la cité du Liégat à Ivry, qui était une des rares femmes architectes de sa génération à fonder une agence portant son propre nom. Pendant plus de 4 décennies, le sujet du logement collectif occupera une place centrale dans ses réalisations, dont Ville d'Ivry-sur-Seine, projet pour lequel elle est architecte en chef en 1969. Elle propose alors à Jean Renaudy de la rejoindre. Les espaces que René Gay-Housted dessine intègrent habitations avec terrasses individualisées et échelonnées, commerces, équipements, espaces et promenades publiques, et cherche à favoriser les échanges et le bien-être de ses habitants et de ses habitantes. Ses réalisations les plus importantes incluent la tour Lénine, la tour Raspail, la tour Casanova et la tour Jeanne Hachette, ainsi que les ensembles Liégat, Spinoza et Marat à Ivry-sur-Seine, la Maladrerie à Aubervilliers, l'îlot 8 de la zone Basilique à Saint-Denis, et 35 logements sociaux à Villejuif. En 2022, elle reçoit le Royal Academy Architecture Award pour son travail pionnier dans le logement collectif. Pour nous, au CREDAC, elle représente une valeur et une actualité, car elle a, avec Renaudy, expérimenté la terrasse plantée par intuition et nécessité. Elle a réalisé une architecture sans compromis. De fait, René Gay-Housted est une personne dense centrale dans la vie politique et sociale d'Ivry. Nous avons souhaité vous réunir, Christian Merliot, à la gauche, réalisateur de plusieurs longs métrages et qui développe aujourd'hui une pratique d'écriture documentaire qui nous a permis de diffuser tout au long du printemps le film Promener, qui date de 1988, qui retrace le parcours d'un promeneur imaginaire parmi les bâtiments de René Gay-Housted, où espace intérieur et extérieur communiquent avec fluidité. Le film de Christian Merliot est donc visible dans le Crédacino, la petite salle de projection du Crédac, jusqu'au 2 juillet. Benjamin Lafort et Sébastien Martinez-Barra, vous êtes fondateurs de l'agence d'architectes MBL. Après, vous êtes rencontrés à l'école d'architecture Paris-Malaquais. Vous avez fondé la revue Face B et vous avez été commissaire d'exposition, notamment du pavillon belge à la Biennale d'architecture de Venise en 2014. Christian, tu vis à Ivry dans cette architecture singulière et vous, MBL, vous y avez installé votre agence pendant quelques années. Vous avez donc, tous les trois, une pratique intime de cette architecture. Vous avez souhaité engager la rencontre d'aujourd'hui sous l'intitulé « Learning from René Gay-Housted », comme un clin d'œil au livre de Denis Scott Brown et Robert Venturi « Learning from Las Vegas » paru en 1972. Votre pratique de l'architecture se base sur une observation du réel, sur l'enquête de terrain. Observer est en quelque sorte ce que vous nous proposez de faire ensemble cet après-midi. Alors merci à tous les trois et je vous laisse la parole.
Merci Claire et merci au CREDAC de permettre cette rencontre et merci d'être ici. Donc peut-être comment ça va se passer ? Learning from, donc comme en référence à cette méthode de Robert Venturi et Denis Scott Brown, le but c'est présenté par l'observation de différentes situations, différentes anecdotes architecturales de l'architecture de René Gay-Housted. La source, ça a été à la fois peut-être à tous les trois notre vécu ici, et aussi beaucoup, puisqu'on a vécu ici. Grâce à cette conférence, on s'est plongé plus longuement sur le travail de Bénédicte Chaljub, qui a écrit notamment 2 monographies sur René Gay-Housted, qui a fait sa thèse, qui a produit beaucoup d'entretiens. Et aussi cette monographie de René Gay-Housted, avec des textes écrits de sa part et qui sont d'une limpidité textuelle, à la fois dans la description des projets et à la fois dans comment elle glisse des petites graines de théorie, mais de manière très douce.
Et peut-être aussi commencer par dire que le film Promener de Christian Merliot a été un peu une redécouverte. Bon, on a vécu à Ivry quelques années, peut-être 7-8 ans, je ne sais plus. Et c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on n'était pas revenu. Et on a reçu le film de Christian qu'on ne connaissait pas. Et alors c'est assez étrange puisque c'est Ivry, mais en 88. Enfin, il n'y a pas que Ivry, mais il y a beaucoup d'Ivry. En 88, la végétation n'a pas encore poussé, les commerces ne sont pas les mêmes, le centre de la ville n'est pas le même. Et puis il y a ce film, peut-être, Christian, tu peux nous dire aussi sur le mode de production du film, il y a une qualité d'image qui, moi, m'a frappé. On a l'impression de découvrir un peu la maquette de la ville à grandeur réelle. C'est certainement lié au noir et blanc ou à des textures d'image qui ont complètement disparu de notre culture visuelle. Mais il y a une histoire, comme si finalement ce film révélait un peu les formes de l'architecture de René Gayousté et de Renaudy, parce qu'il y a un peu de Renaudy aussi parfois dans le fond, alors qu'on n'arrive plus à les voir aujourd'hui dans la continuité du réel. Alors, peut-être juste préciser ce qu'est ce film.
En tout cas, le contexte dans lequel ce film est réalisé, en fait, c'est tourné alors d'abord avec de la pellicule cinéma à l'époque, 88. C'est des chutes de pellicule que j'avais à la fin d'un tournage. Et c'est une pellicule qui a cette particularité dans le noir et blanc de dégager des contrastes très forts. Donc c'est très graphique et j'avais, ça m'avait impressionné de commencer à faire des essais de tournage sur l'architecture parce que les rapports de contraste font apparaître des volumes et que c'était extrêmement facile de montrer l'organisation spatiale des bâtiments ou des espaces entre les bâtiments avec cette pellicule. Et après, voilà, c'était avant la généralisation du numérique. Donc c'est une caméra plutôt lourde avec laquelle on se déplace dans l'espace. Et ce que j'avais envie de voir, parce que je découvrais aussi l'architecture de René Gayousté à cette époque, ce que j'avais envie de voir, c'était j'avais envie de retranscrire comme ça la facilité et la fluidité avec laquelle on passe d'un espace à l'autre dans cette architecture. Alors c'est particulièrement vrai ici entre Jeanne Hachette et Marat. C'est évidemment beaucoup plus développé à Aubervilliers, au projet de la Maladrerie, parce qu'il y a peut-être une dizaine de typologies d'espaces différents entre le logement et la rue. Voilà. Et le film, c'était juste de montrer ça, et de montrer la diversité des rencontres, des occasions de rencontres qu'il y avait si on partait du logement, qu'on allait sur la terrasse, qu'on descendait sur une coursive, qu'on passait par un escalier, qu'on allait sur une petite placette, qu'on faisait le tour d'un petit lac à Aubervilliers. Voilà. Il y avait un nombre d'espaces comme ça intermédiaires avant d'arriver, je sais pas, à l'Auribus par exemple, c'est-à-dire là où le transport urbain, là où on peut rentrer dans la dimension urbaine de la ville. Voilà. Et ça, j'en étais assez impressionné. Et du coup, c'était facile de montrer des sortes de promenades en montrant l'architecture, voilà. En partant des espaces. Alors évidemment, le cinéma bénéficie du fait que ces espaces sont le plus souvent ouverts, enfin les chambres sont fermées dans les appartements de René, mais tout le reste des espaces sont ouverts, ils communiquent. Donc dès qu'on sortait d'un espace fermé par une porte, il y avait une sorte de communication fluide jusqu'à parfois 1 ou 2 kilomètres plus loin, un endroit qui était au bord de la route. Et le film y montre ça, il montre cette déambulation et cette capacité qu'a l'architecture de produire différents niveaux de lieux dans lesquels des personnes différentes se croisent et des types d'échanges différents peuvent avoir lieu.
Justement, cette continuité, cette fabrication de la ville par l'habitation, ou en tout cas cette intrication des échelles, elle ne le dit pas comme ça, mais elle le dit de mille façons, elle écrit de mille façons dans ses textes. On a le sentiment que c'est vraiment la préoccupation centrale de René Gayousté, c'est comment faire la ville par la domesticité, ou en tout cas tracer une ligne conductrice entre l'expérience domestique et l'expérience de la ville. Donc on dit souvent que c'était la première architecte femme à avoir son agence. Je pense que c'est aussi la première grande urbaniste française, et ça c'est assez rare. Bon voilà, bon, bref, on va repartir sur la manière
les images.
Les images.
Mais en même temps, oui, c'est vrai que ce rôle, l'annonce bruyante d'une mutation, c'est René Gayousté qui décrit donc ce que va être le projet d'Ivry. Donc le but, on ne va pas parler aujourd'hui de son rapport politique, parce qu'il est puissant, mais du moins tout son travail avec la maîtrise d'ouvrage, toutes ses relations hyper précises et qui ont permis cette bruyante mutation. Plutôt douce dans son architecture. Et donc voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment parler de différentes figures architecturales et politiques au final. Mais,
Sur l'annonce bruyante de la mutation, nous, il y a quelque chose qui nous avait toujours frappé, c'est qu'au pied de la tour, alors c'est pas la tour Lénine, je pense que c'est la tour qui est au-dessus de Jeanne Hachette, dont j'oublie toujours le nom, Raspail, il y a ce marronnier qui est gigantesque. Et pendant des années, on habitait à côté, on se disait, mais est-ce que ce marronnier précède l'architecture ou est-ce que le marronnier était installé dans l'architecture? Alors on a regardé les escaliers qui ne sont pas des escaliers autour, qui sont beaucoup trop pentus. Il y a une sorte d'espace public qui se crée autour de ce marronnier. Bon, jusqu'au jour où on est allé voir René Gailloux-Té pour lui poser la question, le mystère du marronnier. Et évidemment, la réponse, on pouvait s'en douter, évidemment, il était là, ce marronnier. On a construit l'architecture autour du marronnier. Et c'est nous, ce qui nous fascine, et en tout cas ce qui nous interpelle, je dirais, dans le travail de René Gailloux-Té, le travail d'urbanisme et d'architecte, c'est cette opposition, en tout cas c'est le fait qu'il y ait des formes extrêmement fortes, une écriture franchement brutaliste affirmée, et en même temps des gestes d'une douceur et d'une complication pour préserver les choses qui sont extrêmement raffinées. Et cette double attitude qui, je crois, nous, dès le début, nous a séduits. Et je pense que c'est ce qui singularise aussi l'architecture de René Gailloux-Té, peut-être par rapport à d'autres écritures architecturales brutalistes européennes. Et ce marronnier-là en est l'exemple, en tout cas, en est la démonstration. Et on, voilà, pour y être passé tout à l'heure, c'est vraiment un des espaces les plus étranges, presque mystiques, du centre-ville d'Ivry. Alors, il n'apparaît pas dans le film, ou je n'ai pas su le voir. Non, il était peut-être tout. Il était, en 88, il était peut-être déjà un peu moins vigoureux, parce que là, il surpasse les bâtiments, en fait. Il commence à surpasser les bâtiments. En tout cas, René Gailloux-Té, c'est assez. Dans Éloge du logement, elle a un rapport un peu critique, assez ambigu par rapport à son premier travail, notamment sur la tour Lénine, dont elle parle très très bien de la manière dont elle a voulu travailler, l'influence de Le Corbusier, mais aussi on a le sentiment qu'elle est un peu critique par cette approche d'une densité verticale, bien qu'elle a excellé dans l'exercice. C'est assez rare de voir des architectes qui, dans leurs écrits, sont à la fois critiques tout en valorisant le travail qui a été fait. Elle a un ton qui est sur le fil entre mea culpa, pas vraiment, mais en tout cas une sorte d'objectivité, une humilité qui est assez notable. Bah, de la ville à la poignée de porte, c'est vraiment ce que montre le film de Christian. J'ai le sentiment, c'est ce qu'expliquait Christian sur ces espaces intermédiaires. On commence, le film d'ailleurs commence par. Enfin, il y a plusieurs images, puis après il y a une sorte de caméra à l'épaule qui va prendre l'escalier, je pense que c'est de Marat.
Non, c'est Aubervilliers.
C'est Aubervilliers.
C'est la dernière tranche.
C'est la dernière tranche d'Aubervilliers qui ressemble un peu à Marat. Ouais. Dans les, et on découvre finalement, on passe petit à petit, on a un son de ville, et on passe petit à petit dans un espace domestique, en tout cas dans des extérieurs qui sont de plus en plus domestiques. Et il y a cette espèce de promenée, pour le coup, de promenade, qui est caractéristique, je pense, de la manière dont on accède à Ivry aussi, à ces logements, une sorte de, non pas de seuil, mais de fondu enchaîné, pour reprendre, ou de travelling qui est assez singulier, qui est un peu long, et qui parfois amène à aussi, un peu comme une promenade paysagère, à découvrir des points de vue singuliers sur l'architecture. Et le film, en fait, le montre très très bien, c'est-à-dire qu'en suivant le mouvement des escaliers, finalement, le regard pivote, et on a l'impression que cette promenée, elle est faite pour contempler l'architecture avant de rentrer chez soi. C'est assez singulier, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'écriture des cheminements de René Gailloux-Té. À la poignée de porte, alors ça, c'est, ouais. Benjamin, ouais, peut-être tu as parlé des poignées de porte.
Non, mais c'est René Gailloux-Té, donc elle part beaucoup de ses références, et en fait, elle les cite toutes, donc il y a vraiment un respect de... C'est assez rare chez les architectes, voilà, elle dit la poignée de porte, elle est inspirée de celle d'Alvar Aalto. Et c'est assez drôle, elle parle de l'architecture d'Alvar Aalto, mais uniquement par rapport à ses poignées. Et justement, parce que c'est un objet qui est, elle emploie le terme, qui donne une attention, voilà, une politesse aux habitants. Et donc voilà, et ce qu'on peut regarder justement, même dans toutes ces archives qui sont données, notamment au FRAC Centre, en fait, ça va. Il y a tous les plans de toutes les tours, tous les plans urbains, jusqu'au plan des poignées de porte. Et on voit qu'on a une obsession partagée. Simon Boudevin avait fait ce travail aussi de relevé documentaire des poignées à des poignées d'Ivry, pas que de René Gailloux-Té. Et c'est ce travail aussi, donc là, très géométrique, où c'est presque homothétique entre le dessin de la tour et la poignée. Quoi. Ça pourrait être, ces poignées-là pourraient être des maquettes des tours, comme...
En tout cas, elles s'inscrivent dans un... Ce qui est assez fascinant, c'est que cette poignée, cette prise en main, s'inscrit dans une... continuité de dessin et de conception par rapport aux formes architecturales et urbaines. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est complètement héroïque d'avoir une poignée de porte comme ça. Enfin, ça paraît idiot, mais c'est un trésor d'urbanisme, en fait, cette poignée de porte. et elles disparaissent petit à petit, ces poignées, à Ivry. Notamment, on voit que la rénovation ne peut pas garder ces objets qui sont atypiques, atypiques au sens littéral du terme, c'est-à-dire ils sont entrepris dans la typologie de poignées de porte, des règlements, etc. Et cette politesse-là qui fait qu'on touche un élément qui a été pensé pour, en tant qu'habitant pour nous, qui s'inscrit dans une pensée globale, bah c'est le luxe du logement qui aujourd'hui, voilà, je ne sais pas s'il est très reconnu comme luxe, et en tout cas il reste quelques, ça c'est une poignée du Liega prise en photo en venant, il n'y en a pas beaucoup encore. Mais voilà, j'espère qu'elles resteront longtemps. Alors, on avait mis ces images-là. Dans le film, Christian, il n'y a pas de... Est-ce que tu avais réussi à accéder à... Parce que le film, en fait, il a quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'il... on ne reconnaît plus les bâtiments. On a l'impression qu'on est dans un flot continu d'une maquette théorique de René Gayousté. Et ça, je pense que c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve... pour le coup intéressant dans le film, c'est que c'est plus qu'un documentaire, c'est une espèce de fiction de ville Gayousté. Mais j'ai pas reconnu les coursives de Spinoza dans le flot d'images. Est-ce que tu as le souvenir?
Non, elles y sont pas. Il y a simplement un cheminement sous les arcades de Spinoza. Mais il y a pas les coursives.
Mais justement, les coursives, on voit qu'il y a une sorte. Elle en parle beaucoup de ces coursives-là. Alors elle est déjà dans. Attends, je peux remettre le plan de coursive. À ce moment-là, elle est déjà dans le dépassement un peu de la tour monolithique, de la tour Lénine. À Spinoza, c'est 2 ans plus tard, en 72, si je ne me trompe pas trop. Il y a l'idée vraiment de géométrie forte qui cohabite dans une coupe, enfin, tant en plan que dans le volume du bâtiment. C'est quelque chose qui dépasse. Alors, elle cite beaucoup Le Corbusier, toujours, mais on sent qu'il y a quand même la volonté de faire un bâtiment hétérogène, à l'inverse des tours Lénine qui sont très... Elles sont brisées, etc. Elles ne sont pas si homogènes que ça. Mais là, chez Spinoza, il y a vraiment cette quête d'hétérogénéité. Et surtout, enfin, ce qui est fascinant dans ce dessin-là, c'est qu'on voit que le bâtiment se déverse dans la ville avec des géométries complètement autres. Il n'y a pas cette volonté d'une œuvre, je dirais, d'une forme de cohérence séduisante, mais il y a vraiment ce parti pris d'hétérogénéité. Et on voit qu'en bleu, ce qui va devenir soit la crèche, soit l'école, un autre programme, se déverse dans la ville. Le dessin d'après, qui est le plan finalement après la réalisation, le montre assez bien. Ce rôle de pilotis, il y a quelque chose d'assez beau. C'est avec des objets de taille intermédiaire, des édicules ou des petits bâtiments qui viennent se glisser à cheval dans le bâtiment, sous le bâtiment, à côté du bâtiment. Il y a quelque chose de comme si finalement le bâtiment a excédé sa mise en forme comme ça et se construisait dans la ville, quitte à se diluer. Et là, moi, je trouve qu'on est très très loin finalement de l'approche classique du pilotis moderniste. On est plutôt dans une approche, je dirais, qui va au-delà de l'œuvre architecturale pour encourager une sorte de laisser-faire et passer la main aux habitants. Et d'ailleurs, sur Spinoza, il y a une très belle phrase que je ne peux pas citer de mémoire, mais en gros, elle dit il ne faut pas faire du néoclassicisme ou des monuments brutalistes avec le logement. Il faut au contraire mettre des conditions en place pour que ça devienne l'œuvre commune des habitants. Il faut les laisser faire. C'est-à-dire qu'on met en place, enfin, je ne le dis pas comme ça, mais on met en place un processus, puis après, ça ne nous appartient plus. Et je trouve que moi, ce plan de Spinoza, il le montre plutôt bien, même si encore on recourt à des formes extrêmement fortes.
Voilà, c'est la théorie brute d'architecture, ni façade, ni entrée, que des fenêtres. Et c'est vrai que c'est une architecture, en fait, où, si ce n'est les tours, mais qui est difficilement dessinable, en fait. C'est un objet à parcourir, et dans cette définition, en fait, il y a le... je sais pas, elle est d'une évidence totale comme on l'a commenté plus précisément.
Moi, ce qu'on se disait tout à l'heure en parlant de cette citation, c'était qu'on ne peut pas dessiner la façade d'un bâtiment de Renaudy, de Gayousté. Renaudy, on peut justement. On peut plus facilement. En tout cas, Gayousté, c'est beaucoup plus dur. Par contre, on peut dessiner une fenêtre. En fait, il y a l'échelle dans la façade. Ce qui va s'exprimer, c'est l'échelle de la cellule. De la cellule domestique, et d'ailleurs elle n'aime pas le contre ce terme de cellule, l'échelle de l'appartement, l'échelle du logement, comme on dit, éloge du logement. C'est l'échelle du logement en fait qui préside sur la façade. Alors bon, évidemment c'est quelque chose que beaucoup d'architectes ont essayé d'explorer, mais chez René Gailloustet, il y a une sorte d'invention d'une typologie de fenêtre qu'on a vu, je ne sais pas si on l'a mis là, mais que d'ailleurs le film montre très bien. Alors ça, je ne sais pas pourquoi tu t'avais mis...
Mais non, mais c'est dans cette idée justement où elle parle de... C'est à la fois de... Elle cite ses sources, donc elle décrit cet imaginaire, elle parle de ces gravures de René Caille de Tombouctou, et c'est... Et c'est justement, c'est qu'il n'y a plus de façade. La ville est une collection, une gamme de multitudes qui sont représentées par ces fenêtres. Mais là, Tombouctou, le but, ce n'est pas le logement isolé, c'est cet agglomérat de logements.
D'ailleurs, elle parle beaucoup de l'échec des architectes à réussir quelque chose d'aussi bien qu'un logement vernaculaire, une écriture vernaculaire. Elle parle souvent de, finalement, l'architecture ne dépasse jamais le modèle des villes vernaculaires.
Et donc, il y avait c'est peut-être le seul assemblage avec l'architecture contemporaine, mais c'était aussi pour faire un lien avec Christian. Donc, l'image de droite, c'est un projet au Japon de l'architecte Sejima. Et justement, donc, c'est un projet où, Christian, tu y as vécu, mais aussi dans cette architecture de 100... Sans façade, justement, le projet, c'est un des seuls projets, un des rares projets de logement collectif de Sejima. Et justement, on voit qu'il y a une relation à des coursives, à des promenées, à un amalgame de vie publique et de vie privée sous une grande toiture. Et Christian, tu as fait notamment aussi... tu as fait le promener par rapport à l'architecture d'Ivry. Et tu as fait un film aussi sur cette maison-là. Comment tu peux faire le lien au-delà de ta vie personnelle?
Le lien, il est très simple en termes d'architecture. Alors déjà, cette maison, je pense que vous le rappelez, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. C'est-à-dire, vous étiez invité pour une visite à la fin du chantier de ce bâtiment de Sejima. Vous l'avez visité, on en a parlé, je suis allé le visiter, et finalement, comme j'allais travailler là-bas, je pouvais louer une maison. Pour moi, la façon de vivre dans ce bâtiment de Sejima, où il y a 10 unités d'habitation, 30 toits, chaque unité a 3 toits, et les toits sont partagés, en fait, sont communs, impliquait en termes de division de l'espace des formes de proximité qui sont, je pense, exactement celles que je connais au quotidien à Jeanne Hachette où j'habite. C'est-à-dire. La question des espaces partagés, des espaces extérieurs, la question aussi d'une discipline que chacun applique à soi-même pour ne pas entrer dans l'espace ou trop proche de l'espace de la personne à côté. C'est-à-dire, avec les terrasses à Jeanne Hachette, on peut assez facilement entrer de manière très intrusive dans un espace privé qui est celui d'à côté. Les terrasses ne sont pas protégées, sont... Mais il y a un respect de chacun à garder une distance qui permet à planter, qui permet d'être à la fois dans la possibilité d'un échange s'il peut avoir lieu, on peut se parler, et la possibilité d'une distance quand on vit au quotidien et que cette distance elle est légitime pour maintenir la... Et le bâtiment de Sejima impliquait exactement ça. Il y avait des petits chemins qui permettaient de traverser l'ensemble des habitations. C'était des petits chemins qu'on empruntait et on évitait toujours de rentrer dans ces... Tout était ouvert, tous les espaces étaient ouverts, et à Jeanne Hachette, il y a quand même beaucoup de circulations qui permettent de monter sur le bâtiment, de grimper, de prendre les escaliers. Et il y a parfois des visites très intrusives de Jeanne Hachette, et il y en a qui sont très discrètes. Voilà. Et cette façon d'être à proximité, mais de savoir maintenir des limites qui permettent à chacun de définir son propre espace privé, et d'être dans une cohabitation, de partager un espace d'habitation, même si c'est pas l'espace privé de l'habitation, de partager les espaces communs des habitations, ça c'est je pense que c'est vraiment ce qui relie l'architecture de Sejima dans ce projet avec je pense que la vie au Liéga est aussi composée de tous ces moments intermédiaires entre les terrasses, entre les passages sous le bâtiment, cette possibilité qui est donnée d'un échange qui n'est pas obligatoire, et surtout cet échange, il implique une réserve dans laquelle chacun doit savoir maintenir son propre comportement social.
J'avais une question, comme toi, tu as fait plusieurs interviews, tu connais un peu Sejima et tu connaissais René Gailloux-Té. Est-ce que tu sais si Sejima connaît le travail de René Gailloux-Té et inversement si René Gailloux-Té est allé au Japon ou en tout cas avait un intérêt pour l'architecture japonaise?
Alors, je pense que René n'est jamais allé au Japon. Je pense qu'elle connaissait un peu le travail de Sejima, mais quand elle aurait pu le connaître mieux, je pense qu'elle était déjà assez âgée, et je pense qu'elle avait plus la curiosité qu'elle avait eue quelques années avant. Par contre, Sejima connaît bien la rénovation d'Ivry, elle connaît les bâtiments de Renaudy, et elle connaît l'architecture de René Gailloux-Té.
Non, parce que c'est étrange, parce qu'on pourrait voir, il y a quand même... C'est la résurgence de toute une culture qui part du Tim Ten avec le métabolisme, etc. Et on a du mal à savoir si finalement Sejima a pris un raccourci en connaissant le travail de René Gailloux-Té ou si c'est juste un heureux hasard que finalement, quand on prend l'aspect des bâtiments est évidemment extrêmement différent, mais si on prend un plan et cette question de la distance juste et des cohabitations, on sent évidemment que c'est la même approche de l'habitation. Donc, poser la question d'une possible...
Quand elle en parle, Sejima, je pense, dans les entretiens, elle parle de la culture japonaise. Elle part de la culture japonaise en disant que c'est une culture qui implique une distance et que dans toute forme de même de l'intimité, il reste un espace de retrait. Et pour elle, cette architecture, elle permet de construire ces espaces de retrait tout en étant dans un lieu de partage.
Oui, alors que chez René Gailloux-Té, il y a quand même aussi une notion d'empilement, quand même de densité de l'habitation qui est quand même au cœur du projet urbain d'Ivry, puisqu'elle parle très bien du fait de passer de la verticalité de la tour à la densité horizontale après l'opération de Jeanne Hachette, qui va être un peu une révélation sur le fait de pouvoir faire de la densité autrement. Ça, c'était pour illustrer les façades... uniquement composé de fenêtres, je suppose.
Oui, et la densité et aussi la densité verticale.
Bon, voilà, ça c'est une fascination, c'est un mystère. Et le film le montre très bien, puisque le premier tracking du film, qui est donc pas à Ivry, qui est à la Maladrerie, par le noir et blanc, finalement accentue les ombres, et on voit des motifs apparaître, qui en fait, l'architecture de René Gailloux-Té est pleine de motifs.
Oui, elle c'est vrai que le film... nous fait comprendre plus que les plans ou plus que d'y avoir vécu. Quoi. C'est ça où le learning from, vraiment, en tant qu'architecte, le cinéma, autant que les écrits, autant que la visite, nous permet de saisir une complexité. Quoi.
Et là, c'est
vrai. Donc cette photo, elle vient d'après le film.
Ouais, c'est ça.
C'est pas un extrait du film, mais c'est le film qui nous a permis de la prendre.
Alors, cette fenêtre, ce motif-là, qui est assez étrange et qu'on découvre dans le film de deux façons. On le découvre sous la forme quasiment d'une modénature de béton, c'est-à-dire il n'y a pas de fenêtre, c'est simplement, c'est pas à cet endroit-là, c'est ailleurs. C'est ce motif en escalier d'une ruine, quasiment. C'est un motif un peu très dessiné, presque un peu romantique, ce qui est un peu étonnant. On le découvre à l'envers, à l'endroit, enfin, si tant est qu'il ait un sens. On le découvre donc comme simplement une modénature de béton ou comme un système de fenêtres en façade. On le découvre depuis l'intérieur aussi dans le film. Et c'est presque ce qu'on pourrait appeler une fenêtre à la Gailloux-Té. Je crois qu'il n'y a que elle qui a mis en place ce système de fenêtres, qui est finalement la reprise d'une fenêtre tripartite classique, un peu comme Serlio, fenêtre classique. Mais là, avec des hauteurs différentes, et c'est assez intéressant parce que ça renvoie un peu à cette idée de la poignée de porte à la ville, avec l'échelle du corps, l'échelle de l'objet, l'échelle du paysage. On a l'impression que chaque fenêtre est faite pour quelque chose qui a une taille différente, quoi. Être assis, être debout dans son logement, pour un enfant, etc. Enfin, il y a comme une sorte d'hyperfonctionnalisme un peu hallucinatoire dans cette fenêtre qui produit cet objet extrêmement étrange. Et en fait, c'est vraiment l'élément récurrent de l'architecture de René Gailloux-Té, c'est cette fenêtre habitable, d'une certaine manière. Voilà, super transition.
Et d'ailleurs, donc, c'est pas Alvar Aalto, hein, c'est une gravure de Viollet-le-Duc. Et donc, c'est René Gailloux-Té qui parle de cette image et qui la sort justement pour... donc, c'est Viollet-le-Duc qui grave une cathédrale gothique, quoi, ces fenêtres-là, ces fenêtres médiévales. Et justement, René Gailloux-Té en parle comme La fenêtre, ce n'est pas que l'objet pour éclairer ou aérer, c'est en gros un objet de situation. C'est comment on crée un intermédiaire, intérieur, extérieur. Et donc voilà, d'où son attention sur les fenêtres. Et c'est quand même assez drôle qu'elle cite un des plus néoclassiques, à savoir Viollet-le-Duc.
Mais ce qui est assez intéressant sur Viollet-le-Duc, plutôt médiéviste que néoclassique.
Pré-néoclassique.
C'est le retour justement à l'architecture médiévale, ou en tout cas une passion pour le Moyen-Âge, qui est un peu finalement l'architecture plus de situation que de forme. L'architecture du Moyen-Âge, on a retenu de l'architecture justement néoclassique une approche formaliste, etc. Et elle, on a le sentiment qu'elle regarde l'architecture vernaculaire et aussi des formes d'urbanisme médiévaux. Avec ses promenées, ses rues fraîches que sont ses promenées parce qu'elles sont couvertes à moitié, des jardins intérieurs, des encorbellements, des ponts habités. Il y a des ponts habités dans chaque... Il y a deux ponts habités à Ivry. Il y en a un à la Maladrerie. Je pense que c'est une figure qui traverse tous ces plans urbains, en tout cas. L'encorbellement, pareil, sur l'espace public. Et finalement, on se retrouve dans elle revisite les figures de l'architecture médiévale. Donc, c'est pas étonnant qu'elle regarde finalement Viollet-le-Duc. Et en ça, elle s'inscrit complètement, à l'opposé du courant moderne qui, lui, regardait plutôt l'architecture formelle, formaliste, néoclassique. Elle est peut-être proche des Smithson sur la question des rues, ou de Candelis et Wood sur la question des rues. Des rues habitées en hauteur, etc. Et cette fenêtre-là, elle a quelque chose de médiéval, comme tu viens de le dire avec Viollet-le-Duc.
Donc ça, c'est un extrait du film de Christian.
Là, pour le coup, c'est très... on pourrait croire que c'est quasiment un bâtiment de Shinohara dans les années 80 au Japon. C'est assez drôle. Il y a quand même un air du temps comparable à ce qui se passe au Japon à la même époque, avec une architecture métaboliste, brutaliste. Et de recours à des formes assez fortes, comme ça, géométriques, triangulaires, circulaires, carrés, retour à la géométrie primaire, ce qui est paradoxal, puisque René Gallusset met en place plutôt une architecture de situation que de forme. Mais finalement, en fait, elle s'appuie sur des registres de formes très très puissantes pour faire cette architecture de relation. Ça, c'est le cœur du sujet.
Voilà. La ville comme... donc ça, c'est ce terme. La ville comme accumulation de subjectivité. Donc on a pris ce dessin de boîte aux lettres où justement il y a vraiment une attention, mais sur toutes les situations qui peuvent générer de la multitude. C'est assez rare, justement, comme pour les poignées de porte, qu'un architecte, où nous on essaie de le faire, de se battre, de dessiner la boîte aux lettres, ou justement de dessiner naïvement les halls. Donc là, voilà, elle le dessine, elle sait que c'est un objet, un territoire de rencontre, de situation, même dans ses textes. Alors les textes sont assez beaux, puisqu'elle décrit les projets, un peu comme Sejima fait dans ses conférences, elle décrit un peu comme dans le film, elle décrit « je rentre ». C'est pas de la théorie, mais c'est vraiment presque de l'écriture réaliste sur ce que produit l'architecture. Il y a une porte, il y a une boîte aux lettres, et en même temps, dans la composition, on voit la déambulation qui suit.
Ça, c'est c'est Marat ? Oui, c'est Marat.
Oui.
Ouais. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans tout le travail. Alors, c'est, pour le coup, là, ça, on rentre un peu dans la technique du logement collectif. C'est le travail sur les typologies de logements. Aujourd'hui, quand on produit un logement, quand on travaille sur du logement social ou pas social d'ailleurs, la question des typologies de logement est extrêmement chartée. Et c'est vrai que quand on regarde, quand je dis chartée, c'est réglementé par les bailleurs sociaux et par une multitude de réglementations. C'est vrai que quand on voit le travail de René Gallusset, il y a une sorte de liberté dans la création d'un logement, son agencement, qui, à mon avis, n'était pas donné. Elle parle très, très bien du fait de se battre pour sortir des typologies conventionnelles, notamment sur des pièces extrêmement ouvertes. C'est ce que disait Christian sur le fait qu'on ouvre la porte de la chambre, on est dans un espace continu qui, parfois, il y a une sorte de filament linéaire comme ça qui se retourne autour d'un patio, etc. Et en même temps, ça produit nécessairement, si le logement a ce caractère paysager d'une certaine manière à l'intérieur, le bâtiment lui-même commence à avoir ce caractère un peu de filament qui s'étale dans la ville, etc. Donc ça vient à partir du logement, de l'accumulation de subjectivité, chaque logement est un peu différent, ou totalement différent dans certains cas, qu'on produit un bâtiment qui, lui, se dilue un peu dans la ville, mais en tout cas ne fait pas une forme monovalente opposée dans la ville. Quoi. Et ce diagramme typologique, pour le coup, le représente assez bien.
Mais aussi, voilà, c'est toutes ces tentatives de représentation de la subjectivité où on voit... pouf, les individualités, les promener, ces espaces publics. Et donc, c'est tout ce travail ouais, de diagramme où, en fait, on peut... Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire abstraction de l'échelle et on ne sait plus si, cet élément, si ce document-là, c'est le plan d'un appartement ou le plan de la ville ou...
Le capinage de carrelage.
Voilà. Et donc, nous, ouais, c'est, le learning from, il est aussi dans ça, dans cette... dans cette pensée diagrammatique et presque on peut comprendre Ivry faisant abstraction de tout comme un diagramme construit parce qu'en fait c'est assez limpide complexe mais limpide dans l'usage quoi. On voit qu'il y a du public, du privé. Alors, parfois et bien souvent ça se chevauche mais pratiquer cette ville ou ces territoires ouais, c'est vivre dans un croquis.
Bah, c'est surtout vivre dans une trame en fait, qui ne s'impose pas. C'est une trame qui arrive à disparaître et c'est ça qui est assez fascinant. Une trame constructive, en l'occurrence ici, la récurrence de poteaux et de poutres, c'est ce qui représente les diagrammes, qui occasionne une multitude de formes. Et en fait, il y a une rationalité constructive qui cherche à disparaître. Ce qui est l'opposé, je dirais, de l'architecture néo-réaliste ou néo-rationnelle française actuelle, qui va affirmer la trame comme étant une réussite en soi en façade. Le travail de Gaiusté Ronodi est basé sur un même travail de trame, comme tout logement qui optimise un peu la construction, la rationalise, etc., mais sans l'affirmer comme une victoire en soi. C'est-à-dire que le sujet de l'architecture, c'est jamais l'architecture, c'est ce qu'a produit chez Renaudy et Gaiusté. Chez Gaiusté, notamment, chez Renaudy, il y a quand même encore un caractère, je dirais, glorieux et victorieux par la projection des terrasses et une forme géométrique qui est extrêmement, je dirais, visible. Chez Gaiusté, particulièrement au Diega, il y a une sorte de densification. Un travail dans la masse qui est moins visible en façade, mais qui permet aussi de, je pense que c'est une leçon de ce qui s'est passé à Jean Hachette, de ramener la terrasse à soi, c'est-à-dire à soi vers le logement, et d'en faire réellement non pas une pièce projetée vers l'extérieur, mais une pièce dans la logique du parcours domestique, et de trouver le bon rapport entre l'en dehors et l'en dedans, la terrasse étant vraiment cet espace intermédiaire qui s'inscrit dans une sorte de... qui n'est pas satellite au logement, mais qui fait vraiment partie de l'ensemble des pièces du logement. Et donc, elles ne sont pas nécessairement plus petites. D'ailleurs, toi qui as connu le Liega et Hachette, elles sont...
Non, elles sont grandes, mais les terrasses du Liega, en tout cas celles que je connais, il y en a des très grandes. Voilà, et ce qu'il y a surtout, c'est, je pense, une multiplication des formes de ces terrasses. Il y en a qui sont adjacentes au logement, il y en a qui sont à l'intérieur des logements sous forme de patio. Donc je pense qu'il y a une multiplicité de typologies dans les terrasses que René et effectivement en les ramenant parfois vers l'intérieur du logement.
Oui, effectivement, il y a tout le travail sur le patio qui est essentiel, notamment à la Maladrerie. Il y a beaucoup de logements à patio, dans le Liega aussi, puisque le Liega, il y a quand même une épaisseur bâtie qui n'est pas conventionnelle. On est au-delà du bâti haussmannien traversant, des 15 mètres d'épaisseur. On est vraiment sur une sorte de montagne habitée, et ce qui implique de faire rentrer un type de lumière différent aussi, qui aujourd'hui, en fait, paradoxalement, est très... approprié pour le réchauffement climatique, parce que c'est aussi des puits de fraîcheur, ces patios. C'est des habitats qui sont moins... qui potentiellement peuvent bénéficier effectivement d'un renouvellement d'air frais par ces patios-là. Et elle cite Borges, notamment dans je ne sais plus dans quel texte, où elle dit... Ah ben voilà. Le patio, c'est le creux par où le ciel se déverse dans la maison. Donc pour elle, il y a vraiment cette idée de le patio, ce n'est pas qu'une entrée de lumière, c'est un rapport beaucoup plus fondamental au dôme céleste, quoi, à la cosmologie. Quoi. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'elle est rarement, mystique dans ses écrits, ou en tout cas cosmologique. Quoi. Et de temps en temps, ça apparaît, ce qui donne quand même toujours un éclairage un peu, en tout cas moi qui me séduit sur cette architecture qui paraît très rationnelle.
Et qu'elle propose aussi comme une solution parmi tant d'autres. Il n'y a pas une volonté d'universalisme ou de faire le son ou de devoir reproduire plusieurs fois la même logique, même si c'est une pensée en système et en diagramme. Il y a vraiment ce truc de c'est une fois, on l'a testé, c'était peut-être pas l'absolu, mais c'est malgré tout une solution. Mais là, on va peut-être un peu revenir sur ce qu'on disait, mais c'était ce rapport justement, peut-être toujours la critique qu'elle fait, mais critique en douceur du plan libre de Le Corbusier, où on voit que là, on a cette trame, cette prouesse structurelle qui sont ces pilotis, que Le Corbusier bouffe, il dit le rez-de-chaussée c'est sale, on ne met rien, il faut que le logement s'extrait du niveau bas. Et René Gayousté vient ajouter des petits points, des zones d'intensité, des zones d'activité, et dans une forme qui commence à se détacher de cette rigidité qu'est la trame. Et donc, justement, là, par rapport au diagramme précédent. De quoi ?
Non, non.
Par rapport au diagramme précédent où c'était à l'échelle de la ville, là, on est passé à l'échelle du logement.
Et puis là, ça se compile, on sent les strates, c'est ça qui est assez beau, je trouve.
Voilà, là c'est même par une succession, et même graphiquement, hein, c'est par une succession de calques, le travail en maquette pareil. Donc ça c'est une maquette d'Ivry, donc pendant ou après, on ne sait plus trop à quel moment, mais justement on voit que les formes sont quasiment secondaires, et c'est des intensités de situations qui lui permettent de penser la ville, et justement cette ville... Elle vient pénétrer à l'intérieur du logement, c'est-à-dire que les logements ne sont pas plats. Il y a ce travail de volume à l'intérieur.
Oui, c'est vrai que ça, on ne l'a pas dit, mais dès le début, elle met en place, dès la tour Lénine, en fait, les logements sont en duplex ou semi-duplex traversant. Et c'est vrai que la topographie habitée, que l'on peut voir finalement le dépassement de la tour qui est proposée à Ivry, la densité horizontale comme une sorte de topographie habitée et habitable, avec les plantations et les terrasses. Le logement fait partie de cette topographie-là. Il y a une volonté vraiment de niveler le logement, c'est-à-dire de faire plusieurs logements, niveaux, et aussi de multiplier des vues, des points de vue, et d'avoir une expérience du logement qui soit... Ce n'est pas une quête du confort au sens moderne du terme, où finalement tout est à portée de main, tout est pacifié, mais au contraire, il y a une forme d'activité d'habiter comme quelque chose qui se gagne un peu tous les jours. Et ça, c'est aussi assez notable dans l'architecture d'Ivry, de Gayousté. Dans son discours aussi, elle parle vraiment du fait du logement, pas comme l'habitat, elle parle le logement comme étant l'activité d'habiter. C'est pas quelque chose qui est passif, on est chez soi, etc. C'est quelque chose qui, chaque jour, se remet en route et finalement nous construit, et le logement se construit au regard de notre manière d'habiter. Donc il y a une volonté à la fois d'appropriation et aussi du retour du logement sur la construction de soi. Donc il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Ben voilà. Ça, c'est assez, enfin, moi, c'est, cette phrase-là, elle apparaît très rapidement dans son livre. C'est une phrase qui renvoie à quelque chose qu'on peut connaître dans un village. Si les fleurs ne sont pas entretenues, on va commencer à s'inquiéter pour notre voisin, notre voisine. Au Japon, par exemple, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Les petits jardins de pose devant les maisons, si pour X raisons, ce n'est pas fleuri, etc., c'est un signe. Peut-être que ça va mal, etc. Et le fait de le retrouver, de mettre en place cette sorte de bienveillance, du bon voisinage, ou en tout cas d'une vie collective qui se passe simplement par quelques fleurs qui apparaissent, et de le manifester finalement comme un des buts de l'architecture. Je trouve ça assez... Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est à la fois peu de choses, et en même temps, ça explicite clairement la vision de la domesticité selon René Gayousté. Ça, c'est une capture du film aussi.
C'est le vieil gars.
Le Liega qui a... Enfin, je ne sais pas comment... Enfin, nous, on a connu le Liega et Ivry dans les années 2010, quoi. Je ne sais pas, dans les années 80, ça faisait 10 ans que c'était livré.
Non, la dernière tranche a été livrée dans les années 80, je crois.
Ouais.
Et, donc, c'était la grande... la partie à l'arrière du Liega, cette grande esplanade qui descend vers les tours qui étaient là depuis très longtemps. Je pense que la livraison, c'est la... Oui, la toute fin des 85, 86.
Mais est-ce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'à Ivry, la végétation avait pris le dessus sur le bâtiment, ce qui, à mon avis, était le but de ces architectures-là. Et la question, c'est, on voit des photos de temps en temps.
Marat a eu, je pense, des histoires assez diverses. Il y a plusieurs lots dans Marat. Le propriétaire n'est pas le même de l'ensemble des lots. Et il y a eu très vite, au bout de quelques années, peut-être moins de 10 ans, une réfection de terrasse avec extraction de la terre. Ouais. Donc le bâtiment a pris une apparence pendant les 10 premières années après sa construction qu'il a perdu assez vite. Et il y a énormément à Marat de terrasses qui ont été dévégétalisées, dont je suppose que peut-être aujourd'hui les propriétaires, en tout cas les bailleurs vont se poser la question de savoir s'ils ne peuvent pas revégétaliser, puisque c'était quand même une source de production de fraîcheur. Et Jeanne Hachette a eu exactement la même histoire, c'est-à-dire que Jeanne Hachette, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a eu une décision prise par la ville de confier à une architecte un rabattement de la terre sur les terrasses collectives vers le centre, ce qui a empêché toutes les plantes qui avaient été plantées depuis 20 ans et qui redescendaient sur le bâtiment. Aujourd'hui, les plantes ne peuvent plus s'appuyer sur les garde-corps et redescendre. C'est autorisé encore dans les terrasses qui sont privatives et qui sont accessibles depuis les logements, mais plus depuis les terrasses publiques. Donc ça change complètement la typologie des logements. Et ça, je pense que René, ou en tout cas Renaudy, avait conscience que son bâtiment de Jeanne Hachette, il était fait pour être recouvert de végétation. Il le voyait recouvert.
Toutes les coupes d'étanchéité, de permettre la pleine terre, permettre l'épaisseur, elles en attestent, quoi. Et ce que tu disais, c'est justement, bien souvent sous prétexte d'assurance, on vient mettre des dalles et pas prendre le risque de l'inertie du vivant.
En tout cas, ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, quand on conçoit un logement, on parle évidemment des terrasses plantées qui sont devenues... C'est quasiment une aberration de ne pas faire de terrasses plantées aujourd'hui. C'est un peu l'inverse.
De toits terrasses.
Les toits terrasses plantées, la question des épaisseurs de terre, de la biodiversité que va accueillir ces terrasses est centrale. On parle de la trame du vivant, du fait qu'un logement doit s'inscrire dans une trame végétale, mais aussi bêtement penser le saut d'insectes, d'oiseaux à l'échelle de la ville. Et finalement, l'urbanisme d'Ivry, de la maladrerie, etc., par le réseau de terrasses, était déjà... Alors, c'est jamais... René Gailleté n'a jamais écrit « c'est une trame verte », comme on dit aujourd'hui de manière un peu technocratique, mais c'est clairement ce qui est mis en place, quoi. C'est une sorte de réseau, une continuité du vivant, animal en l'occurrence, une continuité de la faune, aussi pour sa reproduction, et une continuité de l'air frais, qui aujourd'hui, on pourrait penser que finalement, un des modèles de ville bioclimatique, ça pourrait être Ivry, si c'était restauré... Selon la manière dont ça a été pensé. Bon, aujourd'hui, on ne construirait pas en béton. Tirer les rideaux et montrer les pots de fleurs.
On est toujours dans l'affirmation par l'acte David Bitté et comment l'architecture permet ça. Donc on voit, il y a deux rapports. En gros, il y a soit on regarde sur la terrasse, soit on regarde la ville. Et donc c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a plusieurs terrasses, il n'y en a pas qu'une, quoi. Il y a la terrasse intime, la terrasse qu'on considère, la terrasse où on va se retrouver. Donc c'est mettre en place toute cette diversité, et même dans le vocabulaire qu'elle emploie, il y a peu le mot terrasse, ça veut dire c'est un balcon, celui-là. Ça c'est un patio. Donc on...
Oui, elle qualifie vraiment les relations de ce qu'on appelle terrasse, on va dire... espace extérieur privatif, pour dire un mot de bailleur de logement, un extérieur privatif, elle le qualifie de manière extrêmement précise. Effectivement, il y a des balcons en encorbellement sur la rue, Il y a des terrasses qui sont sur une autre terrasse, ce qui permet de se parler sans se voir. Enfin, il y a tout un réseau de relations entre le voisinage, entre la ville, entre aussi les terrasses privatives au sein du logement. Il y a des pièces plutôt type chambre qui peuvent avoir accès à une terrasse, tandis que le salon aura accès à une autre. Enfin, il y a tout un réseau par une sociabilité de l'extérieur qui est qualifiée par des rapports de co-visibilité, le fait de pouvoir se parler entre voisins ou le fait justement de ne pas se voir, qui est quand même un réglage, je dirais, c'est de la dentelle sur mesure. On est vraiment sur du logement sur mesure, pour le coup, chose qui est, encore une fois, extrêmement précieuse dans la qualité du logement. Tel qu'aujourd'hui, le logement est fabriqué, c'est vrai que c'est un luxe c'est un luxe typologique, donc qui n'est pas rutilant, mais qui, à mon avis, définit profondément ce qu'est la qualité de ces logements-là.
D'ailleurs, dans le logement où elle était locataire, il y avait cinq espaces extérieurs divers qui les a pratiqués.
Et deux en bas.
Oui, un logement à 5 terrasses, c'est fabuleux. Peut-être qu'il faut qu'on accélère.
Ça. Ah oui.
Bon, mais ça, c'était un plan. Voilà, un plan avec des terrasses, simplement pour montrer la manière dont les terrasses s'inscrivent à la fois dans la trame, mais sont aussi intégrées dans la continuité des pièces et sont parfois partagées à plusieurs.
Voilà, sur le rôle un peu humble d'un architecte ou du monde de l'architecture, c'est quelque chose qui peut ne pas entraver. Si déjà il peut faire ça, c'est déjà pas si mal. Donc ça, c'est des extraits.
Le film montre, c'est vraiment chouette de voir des logements depuis l'intérieur. Parce qu'il y a quelques logements, de photos de logements dans les monographies, mais il n'y en a pas tant que ça. Et le film, en fait, il montre des logements, je ne sais pas s'ils étaient, enfin, c'était des logements quelconques de personnes qui étaient ouvertes.
Oui, on appelait des gens.
Aussi, dans une conférence assez fascinante. En 91, qui était organisé par le pavillon de l'Arsenal, c'est en ligne. Et donc c'est René Gailloustet et Gérard Granval. Gérard Granval, c'est l'architecte qui a fait notamment les choux à Créteil. Et donc je vous invite à la regarder, parce que justement René Gailloustet parle de son travail, elle émet deux critiques sur son travail. Qu'elle justifie, elle emploie ce terme, hein. La terrasse commune est un des ratages de ces bâtiments. Personne ne vient la prendre pour lui.
Elle parle de la terrasse, de la tour Raspail, je pense.
Oui. Voilà, on parle de la terrasse ici. Pardon.
Je dis, ça n'est pas vrai, les terrasses communes. Il suffit qu'il y ait une animation, et justement, actuellement, au LIEGA, il y a une association qui reprend possession avec les habitants des terrasses pour faire des potagers, etc. Donc,
mais là, c'est peut-être justement parce que dans les années 90, c'était pas utilisé comme ça aurait pu. Et justement, c'est dire l'architecture, elle peut pas tout. Et c'est amusant de voir comment, face à Gérard de Granval, qui disait c'est une réussite, mon bâtiment, parce que c'est une sculpture par rapport à ici, où ici, c'est la création de situation. Donc, ce rencontre des deux architectes était assez amusant, et notamment elle émet une deuxième retour critique dans cette conférence, c'est sur les coursives de Spinoza, où elle dit il manquait peut-être 20 ou 30 centimètres. Voilà, parce qu'en fait c'est parce que c'est pas en fait assez ample pour que les enfants puissent y jouer, pour qu'on puisse se croiser, pour qu'on puisse s'arrêter. Et elle le dit, elle l'énonce en fait, donc c'est assez... Donc on a envie de vérifier, voir s'il faut vraiment ces 30 cm, mais du moins c'est assez rare pour un architecte d'annoncer ce qu'on a peut-être raté.
Ah ben voilà, c'était la phrase de fin qu'on a repris dans ce qu'elle écrit sur la fabrication de Marat. Et quand elle parle de Marat, elle dit j'ai jamais trop utilisé de références explicites, mais après avoir fini Marat, je me suis rendu compte, j'ai retrouvé une photo de Jaipur, une photo de construction d'une rue de Jaipur, qui sont des constructions donc en briques rouges, avec des logements qui montent au rez-de-chaussée vers plus un, des commerces et des logements. Il y a une sorte de trame très visible et en même temps la vie qui accède à tout ça. Et on a l'impression que le bâtiment se construit encore de manière autoconstruite. Enfin voilà, on ne comprend pas trop finalement si c'est un chantier ou une architecture finie. Et elle a cette phrase qu'on trouve assez forte, de dire que la production architecturale implique des transformations sur une longue durée, une sorte de concrétion quasi naturelle de la vie sociale. Et c'est un peu tout ce qui, dans les écrits, elle explicite de manière plus ou moins claire, ou en tout cas de manière parfois avec des anecdotes et parfois avec des phrases un peu sentencieuses comme celle-ci, qui est de dire que l'architecture, finalement, c'est une sorte de canevas de fond pour quelque chose qui est plus important, c'est l'acte de se loger, le logement. La question, c'est le logement, l'activité de se loger comme quelque chose d'actif qui, finalement, va au-delà des formes qui peuvent être mises en place. Mais toutefois, et c'est là où elle est, je la trouve, moi, ce qu'on disait, intéressante et même pertinente, c'est que ça passe par des formes assez fortes, mine de rien. Voilà.
Merci.